Je dis rien, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce premier retour d'XP qui va être consacré à Monster of the Week. Alors, Monster of the Week, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse de Michael Sands, qui a été édité chez Evil Hat et qui a été financé via un crowdfunding assez récent par le studio Dead Crows, qui normalement devrait livrer la version française en été 2018. Alors Monster of the Week, ben, il fait partie d'une première vague de jeux propulsés par l'Apocalypse, puisqu'il est arrivé en fin d'année 2012. Le système initial Apocalypse World est sorti en 2010 et il est arrivé à peu près en même temps que Dungeon World et Monster Heart. De ce fait, il reprend énormément de mécaniques d'Apocalypse World. Et quand je dis de mécaniques, c'est pour être plus précis, de moves d'Apocalypse World. Alors, que nous propose Monster of the Week? Ben en fait, il nous propose d'émuler des séries américaines typique, où chaque semaine, il y avait un monstre qui apparaissait et les héros de la série devaient l'abattre. Par exemple, les premières séries qui viennent en tête vont être Buffy contre les vampires, du moins les premières saisons, mais également Supernatural, True Blood, X-Files, et si on devait aller même plus loin, bah Scooby-Doo. Oui, Scooby-Doo peut être également émulé par Monster of the Week. Alors, le système de résolution de Monster of the Week est celui d'Apocalypse World, à savoir 2d6 plus une caractéristique. Sur un 7+, vous réussissez. Sur un 6-, c'est un échec. En étant un peu plus fin, sur un 10+, c'est une réussite parfaite. Sur un 7-9, c'est une réussite mitigée, où très souvent, il y aura une contrepartie négative qui vous sera proposée. Très franchement, c'est efficace. C'est vraiment très rapide à prendre en main, très rapide à comprendre. Et en général, les joueuses, ben, s'adaptent très vite à ce système de résolution. De plus, il n'y a pas 50 000 compétences. Il y a ce qui s'appelle des moves de base qui vont être utilisables par tous les personnages et des moves spécifiques aux personnages. Ça signifie que lorsque vous allez avoir une action à résoudre, ben en fait, il va falloir appliquer un de ces moves. S'il n'y a pas de move qui s'applique, il n'y a pas de jet de dés à faire. Parce que ça signifie qu'en fait, ce n'est pas créateur d'histoire derrière. Quand on est MJ, et également quand on est joueuse, ben c'est très, au début, déstabilisant de se dire on va se focaliser uniquement sur certains jets de dés. Et les autres situations, ben on va les gérer naturellement par la discussion. Et de temps en temps, quand on est un MJ à l'ancienne, on peut avoir le réflexe de se dire je vais demander un jet de dés aux joueuses. Or, rien ne s'applique. Et de se dire, ben oui, est-ce que véritablement ça va créer de l'histoire derrière? Et sinon, il n'y a pas besoin de jet de dés en fait. C'est pas ça qui est le véritable propos du jeu. Et donc Monster of the Week va se concentrer sur notamment des moves qui vont être plutôt liés à l'action, voire même complètement liés à l'action, avec le fait de botter des culs par exemple, mais également du fait de faire attention à son environnement, mais aussi de pouvoir utiliser la magie. Et ça, c'est pas réservé à une classe, entre guillemets, de personnages. C'est tous les archétypes peuvent utiliser la magie. Bien sûr, chacun sera plus ou moins à l'aise avec la magie, mais tout le monde pourra l'utiliser. Il est vrai qu'il sera plus facile de réussir un jet de dés si on a un bonus de plus 2 à son jet de dés que si on a un malus de moins 2. Mais sur un 2d6 plus, bah effectivement, on peut faire 12 moins 2, bah 10, vous allez réussir à faire l'effet du sort que vous vouliez. Et ça, c'est un petit peu perturbant au départ pour les joueuses qui, en prenant certains archétypes qui sont assez loin de la magie, bah, peuvent se retrouver dans des situations où ils vont pouvoir être capables bah, d'utiliser un sort, là où initialement leur personnage pourrait ne pas en avoir la possibilité normalement. Et ça crée beaucoup de jeux, parce que derrière, pour la MJ, ben c'est hyper important de se dire, mais pourquoi tu as utilisé la magie à ce moment-là? Qu'est-ce que ça t'a fait? Et ça va créer de l'histoire derrière. Ce qui est intéressant avec Monster of the Week, c'est comme je vous disais, on va émuler les séries télé, donc type X-Files, Supernatural notamment, où on est avec un groupe de personnages. On peut tout à fait jouer à Monster of the Week avec un MJ et une joueuse, il n'y a pas de souci. Je vous recommande notamment d'écouter le podcast 2D6 Plus Cool qui a fait deux campagnes sur Monster of the Week. L'inconvénient, c'est que avec cet actual play, vous n'aurez pas la dynamique de groupe. Mais en tout cas, ça vous donnera une bonne idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Dans le contexte d'une dynamique de groupe, ben, le livre va vous proposer de créer un groupe, soit ex nihilo, et donc parmi les 9 playbooks de base, vous proposez de choisir aléatoirement, j'ai envie de dire, chacun des playbooks et vous vous créerez une histoire commune, soit de partir de groupes préexistants afin d'émuler un type de série. Et donc, par exemple, d'avoir une élue et des personnes qui vont l'aider dans sa quête, type Buffy contre les vampires, d'avoir un vengeur ou plutôt un road trip familial type Supernatural, ou bien d'être spécialisé dans les enquêtes paranaturelles et supranaturelles, j'ai envie de dire, type X-Files. Ce qui va être hyper intéressant également, c'est que le livre va vous aider et vous guider pour définir la campagne vers laquelle vous allez aller. C'est-à-dire, si vous regardez bien, je pense que la très très grande majorité des épisodes de Buffy contre les vampires se passe à Sunnydale. Et oui, la pauvre ville de Sunnydale se reçoit tous les démons, vampires, monstres qui existent dessus. Il y a une explication, mais en tout cas, les monstres viennent à Buffy et c'est pas Buffy qui va aux monstres. Et donc, si vous décidez de jouer et émuler une campagne type Buffy contre les vampires, ça veut dire que vous allez créer votre ville, et vous savez que de toute manière, les monstres vont venir attaquer votre ville, prendre possession de votre ville, etc. À l'inverse, vous pourriez tout à fait décider de jouer en mode supernatural et de faire un road trip à travers tous les États-Unis, la France, l'Allemagne, où vous avez envie, et où là, ça va être les chasseurs qui vont aller au-devant des monstres et les traquer. Et forcément, ça veut dire que votre campagne va être complètement différente si vous décidez de choisir de jouer dans une ville fixe ou de traverser un pays ou le monde. Une fois que vous êtes mis d'accord sur le type de campagne que vous souhaitez, bah après, il va falloir créer les personnages qui se créent de manière très simple et très franchement, en 10 minutes maximum, c'est fait, et créer des liens entre les personnages. Et ça, c'est hyper intéressant parce que même si vous pouvez partir du principe que vous vous connaissez, etc., bah le fait de définir des lien entre les différents personnages va permettre de créer du jeu entre les joueurs et les joueuses. Par exemple, si on a un vengeur qui est associé à un professionnel et que le vengeur décide que le professionnel lui a appris le job, ben ça a vraiment une autre valeur dans leur relation. Ça veut dire qu'il y a un peu une relation de maître à élève. Et donc, on peut espérer que, durant la partie, ben cette relation puisse être mise en avant par les joueuses. Alors les scénarios de Monster of the Week sont des scénarios qui peuvent être entre guillemets assez classiques, ou en tout cas qui sont très efficaces à mettre en place. Il y a une procédure que le livre vous propose, qui va être en 6 étapes, et qui sont tout simplement bah, les étapes que le monstre va devoir franchir pour arriver à son but final, si les personnages n'interviennent pas. C'est facile. C'est rapide à mettre en place, un scénario s'écrit très rapidement. Et le petit truc sympa, c'est que Vous pouvez tout à fait utiliser des monstres très classiques, hein, des loups-garous, des vampires, etc. Mais vous pouvez aussi vous amuser avec les codes, et notamment les casser. C'est-à-dire que vous pourriez tout à fait vous amuser à avoir des vampires, bon, d'une part qui ne craignent pas le soleil, mais qui pourraient être non pas allergiques à l'ail ou autre chose, mais bien à l'or, par exemple. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, dans Monster of the Week, il n'y a pas vraiment la notion de point de vie. Ou plutôt, les monstres, vous ne pourrez pas les abattre tant que vous n'aurez pas trouvé leur faiblesse. Et donc oui, vous allez pouvoir leur faire des dégâts, vous allez pouvoir les faire tomber à zéro point de vie, mais tant que vous n'aurez pas touché son point faible, il se relèvera toujours. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant, parce que finalement, vous pourriez avoir des archétypes avec des mitrailleuses ou bien des fusils à pompe et qui seraient en mode commando. Et bien, si le commando n'arrive pas à trouver le point faible de la créature, mais la créature reviendra toujours. Ça donne un peu de finesse dans les recherches. Il y a certains moves qui vous aident à définir les points faibles de cette créature. Cependant, ben, je trouve que ça permet d'aborder un scénario d'enquête, ben, d'une manière originale, avec des créatures, ben, originales. Même si, sur le papier, initialement, on a l'impression qu'on a affaire à un garou classique. Autre chose intéressante du livre, c'est les conseils sur le fait que, ben, la créature n'est pas forcément toute seule. Elle peut être aussi accompagnée, ben, de mignons. Et il y a toute une procédure pour vous aider à créer, bah, des aides à ces créatures, leur motivation, comment ils vont agir, pour quelles raisons ils vont agir, etc., etc. Et ça permet d'étoffer, bah, d'une part vos scénarios, de proposer une adversité un peu différente à vos personnages, et donc d'apporter encore du jeu. L'autre chose intéressante, c'est, bah, le fait de pouvoir jouer en one shot, tout à fait indépendant, mais également de jouer en arc, et donc en mode, bah, vraiment saison de série télé. Pour cela, bah, le livre aussi vous propose des conseils sur comment rédiger un arc, comment faire en sorte de lier les scénarios entre eux, afin d'avoir un genre de métaplot au sein même de votre campagne. Alors, je dois dire que je suis un grand fan de la série Supernatural. Même si elle aurait probablement dû s'arrêter à la cinquième saison lors du potentiel affrontement entre Michael et Satan, ou Lucifer. Mais bon, ça c'est autre chose. Et durant longtemps, ben, j'ai mené une campagne de l'appel de Cthulhu mode moderne, type Delta Green, pour émuler, ben, des scénario type Supernatural. Ça marchait, comme on a l'habitude de dire, prends le système des 20 ou le système des 100, tu l'adaptes et ça fonctionnera. Oui, certes. Mais quand est arrivé Monster of the Week, je reconnais que ça m'a permis d'avoir des scénarios beaucoup plus intéressants, des histoires beaucoup plus intéressantes, focalisées aussi bien sur les personnages que sur le scénario, et d'arriver à un rendu qui était beaucoup plus efficace, ben, que ce que je pouvais avoir avec mon dessin adapté. Et c'est pour ça que j'ai voulu, pour ce premier retour d'XP, ben, vous parler de Monster of the Week, parce que c'est un jeu qui me plaît énormément, que j'ai déjà fait jouer plusieurs fois, notamment en convention, mais j'avais un biais, à savoir que je proposais des playbooks, et donc des archétypes déjà choisis, et je savais que les archétypes étaient très compatibles les uns avec les autres, puisque c'était des archétypes qui représentaient bien ceux de Buffy contre les vampires ou bien ceux de Supernatural. Et donc, lors de notre test qu'on a réalisé, ben, j'ai laissé libre les joueuses de choisir leurs archétypes et voir si finalement c'était un problème ou pas. On a joué deux sessions de 2 heures, parce qu'on n'a pas pu boucler tout en une seule fois. Et donc, ben, je vous propose maintenant ben, le retour d'XP de la part de Simon et de Paul, qui ont été les deux personnes qui m'ont accompagné pour ce premier retour d'XP. Et voici ce qu'ils en ont dit. Donc, on vient de finir la partie de Monster of the Week à la MIE de l'Université Jean Jaurès. Merci à l'association DA Une Face de nous avoir accueillis pour cette session. Aujourd'hui, ben, je vais être en compagnie de Paul et de Simon. Bonjour Paul.
Bonjour Jérôme.
Et bonjour Simon.
Bonjour Jérôme.
Donc, ben, on a fini cette session de jeu et ben, on va commencer à débriefer de la partie. Bah, notamment, comme le principe bah, du podcast, c'est d'avoir des gens qui ont envie de tester le jeu pour diverses raisons. Bah, la première question que je vais vous poser, ça va être effectivement pour quelles raisons vous aviez envie de tester Monster of the Week?
Bah alors je vais commencer.
Comprenez.
Monster of the Week. Bah en fait c'est que j'ai vu beaucoup de publicité, donc c'est un jeu que j'entends très régulièrement parler, donc j'étais assez curieux de voir ce que ça donnait parce qu'on m'avait expliqué le speech et donc j'ai voulu le tester et donc autant en profiter et en plus se faire enregistrer.
Pas fou, Simon.
Monster of the Week pour moi ça a surtout été un prétexte parce que ça fait un moment que j'entends parler du système Apocalypse. J'ai essayé de lire le système Apocalypse à travers Dungeon World et je n'ai rien entravé. Du coup, tu as proposé de faire des travaux pratiques sur ce système. Donc, je suis venu là-dessus et en plus sur un univers qui m'a paraissé assez fun et donc du coup dans lequel je pense que je pouvais me glisser assez facilement. Voilà.
Ouais, puisque effectivement les inspirations avouées, soyons clairs, sont effectivement Supernatural, X-Files, Buffy par exemple. Donc des séries qui a priori nous parlent tous autour de la table.
Oui.
Donc pour Simon, donc ouais, donc le fait de découvrir le système et Paul, ton côté
Non,
tu.
j'ai déjà masterisé du Apocalypse World, j'ai un peu lu Dungeon World, mais pas mis en pratique. Mais oui, je connaissais le système narrativiste d'Apocalypse World.
Ok. Donc première question qui m'intéresse notamment, c'est sur ben, la partie, à savoir est-ce que ça vous a plu d'abord? Est-ce que vous avez pris plaisir à jouer ou pas du tout?
Non, la partie m'a plutôt plu en termes général, même s'il y a eu des petits dérapages de temps en temps, mais après c'est notre quotidien de rôliste, entre guillemets, de déraper des fois dans le jeu.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en dehors des sorties de route qui sont, je pense, assez communes à toute partie de jeu de rôle, non, j'ai pris pas mal de plaisir à jouer. Après, je sais pas si c'est imputable spécifiquement au jeu ou au groupe. Mais je pense que l'un sans l'autre, de toute façon, ça marche pas.
Oui, je pense que c'est obligatoire dans notre milieu des fois de
Trop
déraper.
d'affect. On est obligé d'avoir de l'affect, sinon on peut pas jouer.
C'est ça.
Alors, si on est sur le côté effectivement, c'est ça a dérapé. Est-ce que le système a encouragé le fait de déraper? Vous avez eu l'impression ou pas? À savoir, est-ce qu'effectivement le fait d'avoir des moves, puisqu'on est sur un jeu propulsé par Apocalypse, est-ce que les possibilités que les moves ont offert vous ont conduit en fait à des scènes ou des situations sur lesquelles effectivement ça a pu vous surprendre ou ça a dérapé dans un sens auquel vous ne vous attendiez pas, ou bien a priori non, le système n'a pas permis ça?
Oui, moi en fait, j'ai eu un dérapage, c'était dans Utiliser la magie. Il y a un effet que je trouve qui manque, c'est pas détecter, mais en tout cas identifier la magie. En tout cas, si c'est une origine d'une tiers faction, d'une tiers créature, je trouve que ça manque. Il y a des effets qu'on peut travestir entre guillemets pour donner à ce résultat, mais c'est dommage que ça soit pas de base en fait.
Je suis pas sûr qu'un système favorise plus qu'un autre un dérapage, dans le sens où pour moi un système c'est un outil qui de toute façon se travestit quoi qu'il arrive et qu'on ne peut pas utiliser un système by the book. On est toujours obligé de le travestir, on est toujours obligé de le tordre, on est toujours obligé de l'adapter à la situation présente. Celui-là, alors moi c'est ma première et c'est pour l'instant mon unique partie en système Apocalypse, donc je n'ai absolument aucun recul sur l'utilisation. Mais ce que j'en vois, c'est qu'il est quand même suffisamment flou, suffisamment général pour que ces travestissements, comme tu les appelles, ne soient pas graves.
Ah oui, après, ce n'est pas un effet grave. Je trouve que pour un système Apocalypse, qui, après avoir lu Apocalypse World et y avoir joué, je trouve que celui-ci est vachement plus clair, vachement plus jouable. Et
c'est ce que dit la légende urbaine, effectivement.
Oui, et plaisant dans la manière de débuter une partie. Mais en soi, c'est peut-être un petit ajout qu'il faudrait rajouter sur les feux, mais après, c'est pas grave. C'est juste que je trouve ça bizarre que un truc qui soit normalement, qui me semblerait normal de mettre de base, n'y soit pas.
Ça, je dis pas le contraire.
Et sur les joueuses qui seraient la cible de ce jeu en particulier, est-ce que c'est plutôt des joueuses effectivement fans des séries qu'on a pu citer précédemment? Est-ce que c'est un prérequis obligatoire, ou est-ce que les personnes qui apprécient simplement, j'ai envie de dire, le côté surnaturel, enquête surnaturelle, un peu débridé, ça suffit?
Bah, je pense que c'est autant pour les séries que t'as citées précédemment, mais on va dire que pour les générations un peu plus jeunes, il y a toujours et il y en aura toujours des teenage séries. Par exemple, il y a Teen Wolf, il y a que je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, Vampire Diary,
The Originals.
The Originals.
Ça n'existe plus, Vampire Diary.
Ouais, je sais plus, je regarde pas. Mais voilà, c'est un thème tellement facile à produire et tellement ça fait partie de la pop culture en plus. Donc on a tous la vision de Charmed par exemple, où chaque semaine elles vont buter un démon, ou les Soraya Hollywell à la fin elles vont faire leur incantation magique et après elles vont bannir le démon, ils elles paient. Quoi, tout le monde a vu ou entendu ou a perdu une après-midi sur W9 devant ce genre de série.
Netflix, moi j'ai pas la télé.
Non mais
oui,
moi aussi j'ai plus la télé, mais
moi par contre je veux revenir sur un début de ta question. Tu parlais de cible de joueuse.
Sinon.
C'est bien ce que t'as dit. Tu as parlé de cible de joueuse. Moi j'ai un problème avec ça parce que ça me semble pas pertinent comme dénomination. C'est-à-dire que honnêtement, joueuse ou joueur, je pense que tout le monde, à partir du moment où on est client de ce format de série, c'est-à-dire ce qu'on appelle un formula show, une série avec une formule qui est déjà établie, situation initiale, la victime, les héros arrivent dans une ville ou sur le lieu, manière. Joueur, joueuse, ça n'a aucune importance. Par contre, là où il peut y avoir, et là je suis pas forcément d'accord avec Paul, c'est que quand tu cites les teen shows, du type Vampire Diaries ou qui Vampire Diaries, et même s'il y a une notion de surnaturel, a aussi une grosse notion de soap opera et de ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas testé le jeu, mais ce qui m'a été rappelé, Monster Heart le fait mieux que Monster of the Week. Supernatural, Buffy, a priori le futur spin-off de Supernatural, Wayward Girls, on y est dedans, et masse de choses aussi. Cela étant dit, on peut aussi faire du sentimental sur Monster of the Week. Mais par contre, c'est clairement pas le cœur du...
Ah oui, non, c'est pas du tout le cœur.
On n'est pas sur le surnaturel, le soap surnaturel teen movie. On est sur, effectivement, ce que les Américains appellent la série Monster of the Week, c'est-à-dire
le monde de la
Smallville, comme c'était au début, ce genre de choses.
Alors, après cette première partie, en fait, le sentiment qui en ressort, c'est... Est-ce que vous voyez ce jeu plutôt comme un jeu en one shot, ou est-ce que il y a un potentiel de développer ce qu'on appelle une campagne de manière assez classique?
En one shot, ça serait pour des one shot un peu plus longs dans le format à peu près 4 teasers, c'est possible, mais vraiment il faut pas déraper ou il faut pas éclater de rire autour de la table pendant une 30 minutes, c'est envisageable. Mais c'est plus un format campagne, ou en tout cas scénario en plusieurs séances, à mon avis. Après,
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait. Juste, je nuancerai. Ce jeu émule vraiment, j'ai l'impression, une fois de plus, ma première et unique partie, le jeu émule assez bien le système de série télé américaine. Donc, on peut faire du one-shot, mais les persos peuvent revenir. Et on peut développer, on peut totalement développer un fil rouge, tout en ayant des scénarios qui sont des stand-alone, qui tiennent vraiment tout seuls. ce qui est exactement le cas de Supernatural, par exemple, pour, ouais. puisque la série télé étant le modèle qu'elle cherche à émuler le, ce jeu-là, je trouve que c'est effectivement, on peut, ça devrait pouvoir se développer sur le long terme. Ça étant dit, on peut aussi, on a fait un one shot. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire
ah ce oui,
one shot.
Ah oui, non, non, moi aussi, beaucoup de plaisir.
voilà. Donc, je pense que les deux vont bien en fait.
Oui.
Après, sur la durée, le temps de la durée, je n'ai pas d'idée. Quand tu parles de partie de 6 heures, peut-être, je sais pas.
Là, par exemple, si on reprend la partie qu'on a faite, déjà, on a mis 2 séances parce que à chaque fois, on a un peu trop dérapé, justement. Et en soi, on a fait à chaque fois 2 parties de 2 heures.
Ouais, on a fait déjà du 4 heures.
Ouais, 4, voilà, c'est pour ça, entre 4 à 6 heures pour un one shot.
Probablement, là, honnêtement, j'ai pas d'opinion.
Oui, moi, par rapport à l'expérience que j'ai sur le jeu, effectivement, les one shot entre 2h30, 4h se font largement, quoi.
Ah ouais, ouais. D'accord.
C'est et je reconnais que les certains moves sont peuvent entre guillemets raccourcir le temps de la partie, notamment certains playbooks comme le dernier par exemple, le fait de pouvoir identifier très rapidement la créature et genre de choses peut faire en sorte que le scénario peut prendre une tournure qui est pas forcément prévue, quoi. Mais c'est vrai que sur 2h30, 4h, ça tient très largement, quoi.
Est-ce que c'est pas tous les jeux de rôle où le scénario prend une tournure imprévue? J'ai jamais connu un scénario qui survive au premier contact avec les joueurs.
Oui, ça, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est vrai que quand on a la possibilité d'identifier le grand méchant, ce qu'il est en train de faire au moment donné, ça peut de suite vite déraper dans autre chose, quoi.
Dans ce cas-là, il faut juste savoir mettre l'enjeu dramatique ailleurs.
Oui.
Ah ben, ça permet de faire évoluer justement le scénar, ça c'est sûr, quoi. Alors justement sur les playbooks ou même le système, quoi. Et je vais m'adresser d'abord à Simon parce que c'est vrai que c'était sa première expérience avec le système.
Oui. Sois doux.
Justement, est-ce que le jeu a été facile à prendre en main? Clair, compréhensible. Est-ce que justement ça a été quelque chose de plutôt agréable ou est-ce que t'étais perdu dans l'utilisation ou dans le déclenchement même des moves?
Pas du tout. Je trouve que on me l'avait vendu comme un système très contraignant et en fait je trouve pas ça contraignant une seconde. Et alors il y a un truc qui est très perturbant quand on est un joueur old school, qui est d'avoir une fiche de perso où au final on fait son personnage en 5 minutes, même pas. Enfin, 5 minutes en nous expliquant vraiment tout point par point. et ça, j'avoue que ça m'a perturbé un peu au début, parce que j'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude de passer au moins une heure à créer un perso. C'est très agréable. C'est pour ça que c'est aussi le genre de jeu que je pourrais facilement recommander pour les parties à l'improviste. Enfin, un jeu de rôle. Ah ouais, mais j'ai rien préparé. Bon, c'est vrai, attrape Monster of the Week. Donc, du coup, ça m'a un peu déstabilisé. Après, au final, le jeu est de mon côté de l'écran. En tant que joueur, je trouve assez... comment dire? Alors, ça pourrait être péjoratif, mais ça ne l'est pas, parce que transparent. Transparent, non pas dans le sens du...
Inexistant,
mais transparent dans le sens où, très concrètement, il a pas l'air aussi révolutionnaire qu'on peut en parler quand on est joueur. Il y a un système de règles qui est basique. Simple. Et qu'on fait rouler du dé, on a des seuils de réussite, des compétences, des machins, des trucs, des plus, des moins. Honnêtement, quand on est joueur, je vois pas la différence. Alors après, d'après ce que j'ai pu comprendre, quand on est MJ, c'est pas la même tisane, mais ça, je l'ai pas encore testé. Quand on est joueur, c'est pas déstabilisant. Par contre, c'est assez simple, je pense, pour des débutants. Des gens qui ont jamais fait de jeu de rôle, plutôt que de les balancer sur un Warhammer. Parce que moi, je dis Warhammer parce que moi, j'ai commencé le jeu de rôle sur Warhammer Fantasy. Hein. Ou sur un appel de Cthulhu avec ses dés multiples et compagnie. Là, c'est 2 dés, pouf pouf pouf, simple, efficace, basique. Voilà, ça me plaît.
Paul, pour toi?
Pour moi, je trouve que le système, après, c'est pas mon premier système Apocalypse, donc on retrouve les moves avec une différente appellation qu'on retrouve dans les autres systèmes. En soi, c'est comme l'a dit Simon, c'est très simple à prendre en main quand t'es jeune joueur. Après, c'est peut-être l'aspect narrativiste qui peut être perturbant pour les néophytes. Mais en soi, non, c'est très très simple, c'est très rafraîchissant, je mets beaucoup de guillemets à rafraîchissant.
C'est ce que je crois que c'est un des adjectifs qui revient le plus quand j'entends parler d'apocalypse. C'est rafraîchissant. Au c'est... début, je crois que c'était un système qui te fournissait une, un coca frais qui sortait du frigo avec.
Ah, si seulement. Ah oui, on veut le supplément, on veut les sous collecteurs qui te servent un coca. Non, c'est que, effectivement, c'est très rapide à expliquer pour les joueurs. La création de personnages se fait en 5 minutes.
En prenant son temps.
Non, parce qu'il faut que tu regardes quand même les différentes classes, parce que je sais pas combien il y en a là sur Monster of the Week. Il y en a.
Il va y bien avoir une bonne dizaine, il me semble.
Ouais, donc le temps que tu choisisses, que tu te mettes d'accord avec tes potes, ou tu dis ah ouais, moi je veux jouer le damné, moi je veux jouer le vengeur, l'agent du FBI. En soi, ça peut être vachement cool. Donc parce qu'on retrouve tous les clichés qu'on retrouve dans les séries. C'est pas péjoratif le terme cliché, parce que en soi c'est une intention du livre de rejouer des clichés qu'on a vus mille et une fois, mais de le jouer à ta manière.
Alors la question justement sur ça, sur les clichés ou les archétypes, effectivement quand on regarde les différents playbooks, très clairement on peut identifier effectivement tous les archétypes qu'on peut trouver dans Buffy, puis ceux qui sont appliqués à Supernatural par exemple. Et qui sont des playbooks effectivement très distincts les uns des autres. Et sur les parties que j'ai pu faire précédemment, effectivement, j'avais présélectionné les playbooks pour avoir justement émulé un certain type de série. Mais j'avais vraiment réuni tous les archétypes qui allaient bien. Là, je vous ai laissé libre de choisir vraiment les archétypes que vous vouliez. Donc, on avait le vengeur et le professionnel.
C'est ça.
Est-ce que ça vous a conduit à vous dire finalement les playbooks sont pas forcément adaptés les uns aux autres, ou les combinaisons, en tout cas cette combinaison était pas forcément adaptée, ou est-ce qu'en fait non, parce que c'est suffisamment large pour pas être embêtant sur la fiction, où vous marchez dessus, ce genre de choses?
Là, en fait, de manière roleplay, nos personnages ont réussi, malgré une différence de tactique professionnelle très différente, à se réunir. Moi, j'étais le vengeur et donc j'ai joué l'apprenti du professionnel pour qu'il devienne justement un peu plus pro et moins médecin urgentiste chirurgien, on va dire.
Boucher traiteur.
Ouais, boucher traiteur. Non, mais il faut arrêter de parler mal des bouchers. Ils font du travail, ils peuvent être très précis également. Donc, je voulais changer. Donc là, en soi, je pense que tous les archétypes peuvent être réunissables si on, de manière roleplay, on leur donne une raison de l'être. C'est aussi, je pense, tous les systèmes apocalypse sont calibrés à ce que toutes les possibilités d'union soient possibles.
Simon,
je suis pas sûr d'avoir un avis super pertinent sur la question, vu que je ne connais que deux archétypes.
Mais est-ce que ça t'a posé problème, les deux archétypes? Est-ce que tu t'es dit, on force un peu le lien entre les personnages?
J'allais développer. Donc moi, je n'ai vu que l'interaction entre nos deux archétypes. Et au final, je pense que ça ne se joue pas sur le playbook. Ça se joue sur la personne que t'as en face de toi. Et sur une complicité ou pas, un passif commun ou pas. Différence culturelle commune aussi, quoi. Donc, a priori, je vois pas en quoi avoir des playbooks c'est limitant. Après tout, on a joué pendant des décennies à Donjons et Dragons avec des classes de perso, et je trouve le système de classes de perso beaucoup plus rigide.
Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est que a priori, les interactions entre les personnages, si je veux comprendre, n'ont pas été encouragées par vos playbooks, en fait, mais bien par le fait que vous ayez envie de jouer ensemble, en fait. Est-ce que c'est ça ou pas?
Alors, un minimum, quand même, je nuance en disant je jouais un professionnel. Donc, il y a un moment, par la nature du personnage, il y a une certaine autorité, une certaine qui était censée se dégager du personnage. Et c'était effectivement à Paul par rapport à ça, de se positionner. Et alors est-ce que ton archétype a joué dans le positionnement que t'as pris?
Oui, je pense que mon personnage a quand même respecté l'autorité, vu que tu étais quand même mon professeur. Donc
oui, ça s'est décidé en RP, pas sur les playbooks.
Si. Il n'oublie pas, il y a les liens.
Ah oui, c'est vrai, les liens.
Il y a les liens. Justement, j'allais y revenir parce que moi, j'ai fait en sorte que ton personnage soit. Il m'a montré les ficelles du job quand j'ai appris à me battre. Donc
j'avais oublié totalement les antécédents. En fait, on a eu un peu de temps entre les deux séances. Voilà. Et du coup, c'est qu'il y a des nuances qui sont parties dans une autre dimension. Et donc la notion d'antécédent, qui pourtant effectivement a beaucoup conditionné notre première partie,
oui,
n'a eu aucune incidence sur la deuxième séance, puisque j'avais même oublié son existence. Voilà. Donc oui, je l'ai persuadé qu'on avait décidé ça en roleplay en début de partie, et non pas, tu vois, comme quoi je me souvenais pas. Donc oui, bon, oui, alors oui, je retiens sur ma déclaration, monsieur le juge.
Donc toujours, on va parler du système Apocalypse pour ce jeu, bien évidemment. Est-ce que il a encouragé une façon originale de jouer? En tout cas, est-ce que ça vous a induit des, j'allais dire, des comportements ou en tout cas des attitudes pour vos personnages que vous n'auriez pas eu, par exemple, d'autres jeux, pas plus que si vous aviez joué à un Cthulhu ou à autre chose qui émulerait un peu des enquêtes surnaturelles, on va dire.
Ok, est-ce que c'est moi qui commence? Ok. Donc, est-ce que ma façon de jouer a été différente parce que je jouais à un jeu Apocalypse en général et à Monster of the Week en particulier? Spontanément, j'ai envie de répondre non. J'ai envie de répondre non parce que déjà, je suis pas un grand expert en jeu d'enquête surnaturelle. J'ai pas une grande expérience sur le sujet. En tant que joueur, parce que faut savoir que 99% du temps, je suis maître de jeu. Je suis pas joueur. Pas sûr que le système Apocalypse, le côté narration partagée, ait beaucoup joué dans un changement d'approche en ce qui me concerne.
Paul?
Pour ma part, comme Simon, 99% du temps, je suis MJ. Non, je pense pas que ça m'a influencé dans la manière. Là, on avait quand même un scénario relativement... Je cherche un terme poli pour dire qu'on n'a pas été des brutasses.
Là, si, justement, on a été des brutasses.
On n'a pas dû vivre le même scénario.
Oui, c'est ça.
J'aurais été beaucoup plus violent si on m'avait laissé la possibilité. Non,
oh là.
Non, mais je rigole. Là, l'enquête a été, entre guillemets, relayée par beaucoup d'actions, donc...
Alors, c'est sûr qu'on a été plus proche de Supernatural que de Sherlock. Hein.
Oui, là, c'est sûr. Là, l'aspect enquête a été très difficile, parce que on a été...
On a vraiment essayé. On était même allé dans des archives municipales.
Oui.
On n'a même pas pu fouiller un carton.
On a lu un journal.
Oui, voilà.
Et bon, patient. Donc, ça a été très, je peux pas répondre, vu qu'il faudrait essayer d'autres enquêtes.
Faudrait essayer de faire une enquête déjà.
Donc, en soi, je passerai.
D'accord. Mais, et donc, par rapport à du champ du Super Interroll, parce qu'effectivement, on était plus sur un scénario de ce type, est-ce que on est très loin de ce que cette série pourrait produire?
On pourrait totalement être en plein dedans, vu que si, en fait, je reviens sur la question précédente, si j'ai eu une influence, parce que vu qu'on m'a toujours sorti que Monster of the Week était une série très télé, j'ai eu le réflexe de donner des termes de cinéma. Par exemple, il y a mon personnage, vous voyez, il passe sur un travelling, là il y a un plan américain, parce qu'en fait, ça m'a facilité l'immersion de la série. J'ai vraiment vu comme la série très bourrine, en fait.
T'as fait de la mise en scène dans ta tête?
Ouais, j'ai fait de la mise en scène.
T'as fait du montage et du découpage.
Oui, j'ai fait travelling latéral, là, j'ai...
Ah ouais, travelling compensé et tout.
Oui, c'est ça. Fish eyes pour la créature et tout.
En pauvre. En pauvre et fish eyes. sur un rail. Ce qui pourrait venir.
Simon.
Alors, c'est paradoxal ce que je veux dire. Je suis pas un très grand fan de Supernatural, et pourtant j'ai vu tous les épisodes. Voilà, j'ai beaucoup trop de temps libre. C'est la conclusion qui s'impose. Et effectivement, à 2-3 exceptions près, notamment un rapport au gore qu'une série télé grand public ne peut pas avoir, on aurait totalement pu être dans du Supernatural.
Ah oui, totalement. Si on avait été beaucoup plus sage.
C'est ça.
Alors, vous avez parlé souvent du côté narration partagée. Est-ce que pour vous, c'est véritablement quelque chose qui a été prégnant lors de la partie? Parce que souvent, quand on est dans le côté narration partagée, effectivement, on va avoir le... Bah, c'est à toi de parler, et donc vas-y. Et puis, je reprends la main. Est-ce que dans ce jeu, notamment, vous l'avez ressenti de cette manière, comme étant de la vraie narration partagée, parce que vous aviez un vrai impact sur la suite? Ou comment vous le définiriez?
Moi, j'ai retrouvé beaucoup l'aspect narration partagée. Tu nous as laissé beaucoup de liberté. Après, la narration partagée dépend beaucoup du MJ qui autorise ou pas cette narration. Donc, il y a la narration partagée où on t'autorise totalement la chose, et il y a la narration partagée où on te bride quand même un peu. Là, tu nous as quand même laissé beaucoup de liberté. Donc, oui, là, je sais pas si le jeu te bride ou pas dans la narration.
A priori, non. Lié au move, en fait.
D'accord.
Et les appliquer. À partir du moment où il y a un move qui me demande, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il peut me demander, quelles sont les intentions de la créature, par exemple, ou que sait-elle faire? Bah, l'objectif, c'est effectivement, moi, d'une part, de répondre, ou bien, quand il y a, bah, par exemple, le move de utiliser la magie, où clairement, c'est pour moi, c'est noté que bah, le joueur définit l'effet, et s'il réussit son jet, bah, l'effet s'applique, en fait. Et donc, après, effectivement, que derrière, je puisse demander une description à la personne et sur les faits, peut-être qu'effectivement, c'est pousser un peu le bouchon un peu plus loin. Mais pour moi, de base, quand la, bah, sur utiliser la magie, c'est assez flagrant. Quand, quand c'est le joueur décrit, bah, le joueur décrit. Donc, je l'encourage aussi, mais quelque part, le système me pousse à dire, bah, c'est quand même au MJ de pouvoir de lâcher la main quand il y a un succès.
Alors, moi, c'est ma première expérience de narration partagée. Donc je ne cache pas qu'il y a 2-3 moments où j'ai été un peu désarçonné.
Alors sur quoi, par exemple ?
Enfin, je t'ai dit, je fouille dans les archives de l'organisation, et tu m'as regardé en me disant, bah, qu'est-ce que tu trouves ? Je m'y attendais pas. Donc du coup, j'ai un peu, pendant une semaine, j'étais un peu désarçonné, parce que c'est une vraie première pour moi. C'est pas dérangeant, c'est absolument pas désagréable. Je pense que dans l'absolu, si on veut vraiment s'en passer, on peut s'en passer sur ce jeu-là en particulier. Je sais pas si sur Apocalypse en général, mais après je vois pas l'intérêt de s'en passer parce que au final ça fonctionne très bien. Peut-être que si on est MJ un peu control freaks, ça peut être un peu problématique d'accepter que les joueurs.
Bah déjà tu jouerais pas à ça.
C'est ça. Mais du coup, moi la narration partagée c'est un truc qui est en train de me travailler au point que je me suis en train de loucher sauvagement sur un jeu Valiant Universe. Où chaque joueur autour de la table devient MJ à tour de rôle pendant la partie. Voilà, quelque part, je suis peut-être en ce moment, je suis demandeur de ça, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça, je changerai dans un an, j'aurai peut-être pas le même avis.
Moi, j'aimerais aborder un point. En fait, je me suis rendu compte que durant la deuxième session, on n'a pas du tout fait l'aspect XP.
Ah oui, bah oui, bah c'est comme l'antécédent. Oui. C'est un truc qui est complètement passé sous les radars.
Donc, est-ce que en soi, ça c'est par contre un gros reproche que je fais au système Apocalypse, c'est la facilité à avoir de l'XP. Est-ce que là, dans Monster of the Week, XP, on la gagne aussi facilement que les autres, mais est-ce qu'en soi, ça rend ton personnage aussi Marissou à long terme ?
Ah, c'est moche. Marissou, c'est moche.
Oh, non, pas. Ouais, pardon.
Traite tu comprends
c'est un montage aussi
traite tu suicide de social justice warrior.
non pardon. Aussi surpuissant à long terme.
Ogre, sac à PV.
Oui, sac à PV aussi.
Alors c'est vrai que c'est un peu le reproche en général au système Apocalypse, hein, c'est que plus tu joues, en plus tu échoues, bah plus tu progresses, hein, avec un système aussi de si j'utilise en plus la compétence qu'on a marqué, je progresse aussi. Donc ça, scénaristiquement, c'est intéressant parce que ça permet de mettre en scène certains aspects du personnage qui sont peut-être pas forcément les plus puissants. Mais c'est vrai qu'on peut très rapidement gagner de l'expérience. Ça va permettre de gagner plus de possibilités. Alors de la puissance, pas forcément au sens, j'ai envie de dire, donjonesque du terme. Mais c'est vrai que très vite, on peut se retrouver avec des personnages qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités et en fait devenir presque inintéressant derrière. Parce qu'effectivement, ayant beaucoup de possibilités, ayant tous les possibles et imaginables moves qui soient dans leur playbook ou dans les playbooks des autres, si on va commencer à piquer dans les autres. Alors, c'est intéressant, puisqu'au départ, on part avec des choses archétypales, et l'évolution permet effectivement de modérer ce côté archétypal, en fait. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, parce que un vengeur, initialement, va partir effectivement avec « j'ai un ennemi », là, c'était le loup-garou, et très vite peut se retrouver avec le fait de soit d'être possédé parce qu'il a commencé à lorgner du côté du damné ou d'avoir des possibilités de professionnel et de finalement s'être staffé par exemple auprès d'une organisation alors qu'initialement c'était un vengeur solitaire. Donc quelque part sur l'histoire, ça peut rendre les choses intéressantes parce que ça va permettre de typer deux vengeurs ou deux personnages identiques avec un playbook identique. Mais c'est vrai que on peut se retrouver avec un personnage qui fait tout, et ça peut commencer à perdre de son intérêt.
Et en termes de menaces en face, est-ce que il y a derrière un bestiaire qui peut t'aider pour justement les personnages à haut level, si je peux dire ça comme ça.
Level épique.
Ouais, level épique.
Si t'as réutilisé les dénominations de Donjons et Dragons.
Oui, non, mais voilà.
Alors, sur la VO, puisqu'en fait, on a joué, nous, sur la VO, hein, puisque la VF est pas encore disponible.
Cet été.
Il n'y a pas de bestiaire fourni. Il y a les explications sur comment créer un monstre, mais pas un bestiaire fourni. Moi, je trouve ça intéressant, parce qu'il y a une procédure, en fait, à suivre. Alors, le fait d'avoir un bestiaire en VF, on verra ce que ça donne. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'avoir un bestiaire tout fait? Là, j'ai pas d'avis. N'ayant pas vu le produit, je peux pas me donner mon avis.
Il y a Croc qui bosse dessus, il me semble.
Ouais, il y a une créature, a priori, qui devrait être écrite par Croc. Et, par contre, ce qui est hyper intéressant dans le jeu, alors que vous avez pas vu, en tout cas par cet aspect, c'est que les créatures ne sont pas que des points de vie. Mmh. C'est-à-dire, en fait, ils ont toujours un point faible. Et tant que le chasseur n'a pas trouvé le point faible de la créature, en fait, la créature, vous pouvez, enfin, peut toujours se relever, en fait.
Bah, d'une certaine manière, si, on l'a vu avec l'aspect que on pensait à chaque fois c'était lui la créature, on butait la chose et que la menace réapparaissait ailleurs.
Alors là, effectivement, sur celui-là, c'est vrai que ça s'est vu. Ça peut être plus violent en termes de. C'est comme si effectivement tu devais t'essayer d'abattre un loup-garou avec
pas les plombs et pas en argent. Oui,
voilà. Ou effectivement, il va tomber, en perd un point de vie, mais de toute manière, il va se relever, quoi.
Oui, oui.
Donc c'est vrai que ça, c'est un aspect que je trouve hyper intéressant parce que tu peux t'amuser quand t'es MJ à justement avoir un garou qui peut être sensible à autre chose que l'argent, et qui peut, ça peut déstabiliser la table. Parce qu'effectivement, on a identifié un garou, et...
Ou un vampire qui a peur des croix des étoiles de David, ou d'un croissant de l'islam, plutôt que d'une croix.
Ouais, ça peut être assez marrant du point de vue du MJ, quand on crée son monstre, du temps de jouer avec les codes, et de pas forcément les utiliser tous, et donc on a identifié un garou, hop, on prend de l'argent, et c'est parti. Donc ça, c'est un côté intéressant, mais effectivement, en tout cas sur la VO, il n'y a pas un bestiaire fourni. Donc, il y a un moment où il faut effectivement se creuser. Il y a quelques exemples de créatures, bien sûr, mais il n'y a pas 50 fiches de créatures à utiliser, quoi.
Alors, à vous écouter, une fois de plus, moi, je suis un peu le candidat de l'Apocalypse, ici. À vous écouter, j'ai l'impression que l'Apocalypse, en général, et Monsters Week en particulier, n'est qu'une gigantesque boîte à outils. Et qui, du coup, elle nécessite beaucoup de travail de la part du MJ. Je me trompe ou pas du tout?
Alors, pour Monster of the Week, très franchement, aucun. Enfin, vraiment pas.
D'accord.
Pour d'autres, jeux propulsés par l'Apocalypse, ça peut demander vraiment beaucoup plus de travail. On va rester sur Monster of the Week puisqu'on parle de lui. Il y a une procédure, en fait, de création de scénario qui est, je trouve, hyper efficace, qui est en, je crois, 6 étapes. À savoir, on définit le grand méchant, son objectif, et le jeu nous explique, en fait, définissez quelles sont les 6 étapes qu'il va réaliser pour arriver à mettre en place son plan, si les personnages n'interviennent pas. Et donc, faites comme si il n'y avait pas de chasseur qui était à sa poursuite, et bien sûr, derrière, les PJ arrivent, et qu'est-ce qui se passe? Et donc, le scénario... Alors là, je l'ai pas ici, j'aurais pu vous le montrer, mais très franchement, le scénario, il est sur les étapes, sur qui est intervenu quand, quels sont les impacts et c'est quoi la motivation. Et là, il y avait 3 gros events, 3 petits events derrière, mais il y avait 3 gros events qui devaient apparaître si les personnages n'intervenaient pas. Et donc, le travail sur ce jeu-là, pour le MJ, est hyper limité, je trouve, et permet, je rebondis sur ce que tu disais, Simon, tout à l'heure, sur le fait de dire... Alors peut-être pas sur de l'impro totale, mais effectivement, en début d'après-midi, on me dit « fais-moi jouer à quelque chose », mon premier réflexe va être de dire « bah ok, on fait un Monster of the Week, laissez-moi un quart d'heure histoire de penser à un gros méchant, qu'est-ce qu'il peut faire et quelles sont les 4-5 étapes, et on est parti ». Donc c'est vrai que moi, j'apprécie énormément ce jeu de ce point de vue-là, parce qu'il permet d'avoir des scénarios qui sont où je passe pas la semaine à le peaufiner, parce que comme tu disais, hein, la première rencontre va faire que de toute façon le scénario va partir en vrille. Mais là, moi, je sais que j'ai 6 étapes et que ces 6 étapes vont avoir lieu si les personnages n'interviennent pas. Et s'ils interviennent, ben ok, ils s'arrêteront avant. Ou s'ils interviennent pas au bon endroit, ben ça va se passer. Et donc eux vont voir les conséquences, à eux de réagir derrière pour avancer. Mais franchement, le travail sur ça est vraiment hyper fluide.
C'est ça qu'on appelle les frontes.
Alors c'est ce qu'on pourrait appeler effectivement un front.
Mmh. Oui, c'est ça, parce que je sais qu'il y a, j'ai vu beaucoup ce terme revenir en survolant tout ce qui était consacré à Apocalypse, enfin propulsé par l'Apocalypse. Et donc je sais que c'est un concept que j'ai eu du mal à saisir en lisant, surtout, bon, je ne vais pas faire de bashing, mais un certain éditeur qui est à fond sur ce système et qui est réputé pour être assez peu clair dans sa rédaction, je n'ai pas compris un traître mot de ce que c'était le système de front.
Oui. Alors d'accord. Qu'en fait, c'est juste une menace qui a un plan par étape et qui va progresser en fonction des actions ou pas des joueurs, en fait.
D'accord. Très bien.
C'est simplement ça. Mais c'est quelque chose qui est, en fait, finalement assez classique, mais qui a été matérialisé.
Oui, parce que concrètement, c'est comme ça que j'écris mes scénarios depuis 15 ans, moi, donc
voilà. Et c'est exactement ce que nous disent toutes les personnes à qui on fait tester le système, mais c'est ce que je faisais. Ben oui. Ça a juste été formalisé. Chose qui n'était pas forcément. Ouais. Et c'est top. Et là, effectivement, là, on pourrait s'amuser à avoir plusieurs fronts en parallèle. Et ça veut dire, effectivement, plusieurs menaces en parallèle, quoi. Là, on est resté sur quelque chose de soft avec une seule menace. Mais on peut tout à fait s'amuser à mettre deux fronts en parallèle.
Voir beaucoup plus. Si on, là, parce que là, on était dans une petite ville, mais si on fait une...
On était deux joueurs. On était deux joueurs.
On était deux
dans
joueurs.
Dans une petite ville.
Donc, si on était plus dans une grosse ville, genre New York, là, on aurait pu ouvrir 8 fronts. Là, partir réellement sur une très grosse campagne, limite parler de saison.
Oui, complètement. Et c'est vrai que...
Avec une saison finale, où tout le monde meurt, et puis...
Ouais, c'est ça.
La saison 2, on revient.
C'est ça. Et on n'a pas de budget pour finir la saison, donc on finit sur un gros...
cliffhanger.
Sur un gros cliffhanger.
Sur un carton. C'est sur un carton avec un texte. Oui, alors il s'est passé ça, en fait. On a plus de budget, donc on est obligé de vous l'écrire.
Mais c'est vrai que souvent... Alors, je sais plus si c'est dans le livre de règles, en tout cas VO, mais souvent, ce qui est décrit, c'est... Pensez à une menace principale et mettez une menace secondaire, qui est une conséquence de la menace principale, en fait. Non pas pour brouiller les pistes, mais effectivement pour dire l'horloge de l'apocalypse, comme ça a été décrit dans Apocalypse World, mais avance, plus il va y avoir des conséquences importantes, en fait. Et à partir du moment où on met déjà même une menace principale avec une menace secondaire, ça peut faire déjà pas mal de jeux, parce que notamment si on règle que la principale, ben, la menace secondaire avance. Mmh. Qui était pas forcément le scénario initial, hein. Souvent c'est ça, mais c'est une conséquence. Et quand les joueurs sont focalisés sur l'action principale, ce qui est normal, hein, ben derrière on peut largement effectivement, ben j'enchaîne sur un deuxième scénar parce qu'en fait tout n'a pas été réglé, quoi. Donc ça c'est aussi une grande force de la chose, mais par contre pareil, le second front entre guillemets ou la seconde menace, en fait, elle va s'écrire de la même manière. C'est à tel moment il va se passer tel événement et ensuite il va s'en passer 5 ou 6. Pour arriver jusqu'à autre chose, quoi. Donc le travail pour le MJ, en fait, est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça hyper light, quoi. Après, construire une campagne, etc., ça va demander du boulot, hein, soyons clairs, avec un fil conducteur, etc. Mais, très rapidement, on peut se retrouver avec des scénarios qui peuvent s'enchaîner, plus ou moins liés, mais un peu comme les séries type Supernatural, hein, je veux dire, sur 23 épisodes, il y en a 10 qui font la trame principale et 13 qui servent à rien, quoi.
Alors... Si les producteurs nous entendent, si vous pouvez nous payer 1 € à chaque fois qu'on a dit le mot Supernaturals, je pense, c'est ça. Je pense qu'on serait très riches. Parce que je viens de percuter, mais on a dû le citer 25 fois.
Oui, c'est pour ça que j'ai essayé de varier avec Charmed, par exemple.
Oui, oui, t'as eu raison, hein. C'était.
C'est pour ça.
Alors, vous en tirez effectivement le gros fanboy que je suis de cette série.
Moi, une fois de plus, je suis à jour. J'ai à peu près tout vu.
Alors que moi, non.
Et je suis pas très fan. Enfin, ça fait le job, c'est super. Honnêtement, ça fait le job, c'est distrayant et
oui.
Mais c'est pas il y a des épisodes concepts qui sont complètement barrés qui permettent de donner de l'air à la série.
Bah, c'est quand t'as pas dit de scénario, tu regardes un scénario de Supernatural et t'as un scénar quasi prêt.
Mais ça c'est évident. Alors là, c'est clair qu'on va sur le wiki bestiaire de Supernatural, il y a le scénar, il est écrit, quoi. Enfin, le méchant il a fait ci, le méchant il fait ça, machin, ils ont fait ça pour intervenir. Bah voilà. Ok, on a un scénario de Monster of the Week.
C'est ça. Et plus bon. un métaplot pour lier tous les épisodes entre eux.
C'est ça. Et donc voilà.
Mais en soi, ça serait plus long de regarder un épisode Supernatural pour avoir un scénario que créer un scénario avec le...
Ah mais oui. Ah mais je confirme.
C'est 40 minutes.
Oui, c'est pour ça.
Et oui, je confirme qu'on irait plus vite à l'écrire qu'à le regarder. Ça c'est sûr. Est-ce que vous avez un dernier commentaire, un dernier avis ou une recommandation que ce soit pour des futurs joueurs, pour des futurs MJ ou...
Pour des MJ, je pense que une recommandation, des MJ habitués à un système traditionnel, savoir lâcher la rampe, savoir à un moment, savoir lâcher. Et moi, je dis ça en me disant, parce que ça va être très compliqué pour moi, lorsque je serai MJ à Apocalypse, parce qu'un jour ou l'autre, je serai MJ à Apocalypse, sur un jeu Apocalypse, ça va être très compliqué, mais je pense que un des seuls du système, c'est ça, de savoir lâcher la main.
C'est très difficile. Rebondis sur ce que tu dis. Moi, 10 ans de système plus classique, et lorsque j'ai dû commencer avec Apocalypse World, la première session a été très douloureuse.
Je peux imaginer.
Pour terminer, un MJ qui a déjà masterisé quand même.
Ouais, mais le problème c'est que si tu dois toujours être un MJ qui a déjà masterisé, tu commences jamais vraiment en fait. Peut-être commencer en étant joueur.
Ouais, peut-être commencer en étant joueur.
Commencer en étant joueur pour après passer derrière l'écran, ça me paraît pas. Déjà, c'est ce qu'il faudrait faire de façon générale, mais je pense que sur effectivement, je réfléchis à voix haute. Effectivement, je pense que sur Monster of the Week, ça me paraît peut-être encore plus important que sur un jeu traditionnel. Tu vois, toi, tu dis 10 ans de système traditionnel. Moi, j'ai commencé le jeu de rôle en 92.
Oui, non, mais on n'a pas le même âge.
Non, mais imagine à quel point moi, je peux être encrouté dans des automatismes de pensée.
J'étais pas encore né à ce moment-là.
Nya, nya, nya. Seul jeune, là. Imagine à quel point je peux être encrouté dans des automatismes de pensée
et dans des
automatismes de jeu. Je pense que ça va être très compliqué pour moi d'être MJ à Apocalypse, mais j'ai envie de me lancer ce défi. J'ai envie de tester. En plus du fait qu'il y a des jeux annoncés qui doivent sortir qui me plaisent, dans les settings m'attirent. On est pas là pour faire de la pub, mais un certain jeu qui parle de sorcières de la nuit, tu vois, par exemple.
110, tu nous écoutes.
Non, mais en plus, avec les jeux propulsés par l'Apocalypse, il y a tellement de hacks variés entre Apocalypse World, Dungeon World, Liberté.
Uncharted World qui sort bientôt en VF, a priori. Le PDF a été...
Pas encore livré.
Pas encore livré, PDF.
Pas au moment où on enregistre.
Pas au moment où on enregistre. Undying.
Undying aussi. Masque. Le nombre de PBTA.
Donc voilà, avec le système Apocalypse, il y a simplement, je pense, quelques variantes par hack. C'est un système finalement devenu plus que générique.
À partir du moment où t'as un logo et une abréviation pour désigner ton système, PTBA...
Non.
C'est que t'es devenu générique. Voilà.
Bon, ben merci à vous deux en tout cas.
Merci à toi.
C'était notre premier enregistrement, donc j'espère que ça vous aura plu. D'une part Paul et Simon, et puis les personnes qui vont nous écouter.
De la part de Paul Simon, oui, on est...
ça passerait bien en plus.
Paul Simon. Ouais. Oui, on est... Enfin, en tout cas, moi, ce qui me concerne, la partie Simon de Paul Simon, apprécié de jouer et d'enregistrer.
Et la partie Paul de Paul Simon a fortement apprécié la partie et prête à recommencer. Ouais.
Bon, eh ben merci à vous, merci bon, à vous bien. Tous d'avoir écouté ça, et puis on se retrouve bientôt pour un prochain jeu. À bientôt.
À bientôt.
Bye bye tout le monde.
À bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.